Il est 10h10 sur Radio FM+, c'est le 10-10.
Le 10-10, c'est à 10h10 tous les jours sur Radio FM+.
Grâce à nos partenaires, invités et chroniqueurs, vous saurez tout sur tout et même plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous prie d'excuser cette voix d'outre-tombe, mais ça y est, l'automne est arrivé, l'hiver est presque là, et la première grippe, rhume, je ne sais pas, est déjà présente, et j'en bénéficie pleinement en ce moment, donc excusez ce ton et cette voix qui n'est peut-être pas très très jolie. Nous allons recevoir aujourd'hui dans le 10-10 Louis Le Tertre, qui est chef de service au Carude. Louis, bonjour.
Bonjour.
Alors, je n'ai rien dévoilé, vous allez pouvoir nous expliquer tout de suite Carude. Alors, c'est Carude. Rude.
C'est Carude.
C'est ça.
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques d'usagers et d'usagères de drogue.
Voilà. Donc ça, c'est une institution.
C'est une association.
Une association d'abord.
Tout à fait. Un établissement médico-social.
Très bien. Et ce Carude est né avec d'autres, je suppose. Vous n'êtes pas le seul en France.
Non.
Il y en aura un certain nombre. Il y a des besoins, c'est certain.
Est
né, ça naît presque au moment du sida, ou un petit peu avant.
Mmh.
Le sida complique les choses. Et puis en 2006, donc ça fera bientôt 20 ans, il y a une loi qui institue ce qu'on peut appeler les Carude, c'est ça ?
Tout à fait. Pour reprendre, donc, dans les années 80, le VIH frappe de plein fouet les usagers de drogue par le biais d'overdoses, les hépatites flambent. Et l'État reste longtemps dans une logique répressive, centrée sur l'abstinence. Et sur le terrain, des acteurs associatifs comme peuvent être, ont pu être Médecins du Monde, Aide, ASU, Technoplus et d'autres, commencent à agir. Et on appelait ça à l'époque les boutiques. Et ils commencent à distribuer des seringues, accueillir sans jugement et parlent d'usage sans condamner, ce qui était déjà un changement de paradigme de ne pas condamner les usages.
Alors on va dire sur le terrain, parce que
sur le terrain,
voilà,
tout à fait.
Au niveau de l'administration, au niveau des gens généraux, la population générale, il y a quand même un jugement, hein, il ne faut pas se raconter
tout
l'histoire.
Tout à fait. Il y a eu la loi de 70, dans les années 70, après une arrivée massive d'héroïne sur le territoire français, qui a fait de nombreux morts par des overdoses. Cette loi donc promeut la répression et le soin, mais le soin uniquement centré sur l'abstinence.
On doit s'arrêter.
On doit s'arrêter. Ce qui est un échec pour beaucoup de personnes, parce que l'abstinence est difficile à atteindre.
Et nous sommes face à des addictions quand même.
Nous sommes face à des addictions, à une maladie, comme quelle addiction. Et comme toute maladie, c'est une maladie, enfin comme toute maladie, cette maladie en tout cas est une maladie chronique et difficilement soignable.
Donc 2006.
2006.
Il y a cette loi.
Ouais.
Et donc les Carudes naissent entre guillemets.
Tout à fait.
De cette loi. Alors quand vous dites nous sommes une association, moi je dis vous êtes une institution. Vous êtes quoi? C'est privé public? C'est public public et associatif? C'est comment?
Alors au Carude, donc nous, moi je suis chef de service au Carude Access. Le Carude Access, c'est une association qui appartient au groupe SOS Solidarité. Le groupe SOS Solidarité, c'est un groupement d'associations, de structures sur le territoire français. Donc le Carude Access est une association de loi 1901 et financée par l'ARS. On a ce financement donc, par l'Agence Régionale de Santé. Et du coup, nos missions sont d'accueillir les usagers et usagères de produits psychoactifs.
Est-ce qu'on considère que ça fait partie des questionnements ou des questions de santé publique?
C'est une question de santé publique que d'accueillir ces personnes, en effet.
Et qu'est-ce qu'elle représente, effectivement, comme proportion? Parce qu'on a toujours, l'impression que c'est énorme, mais par rapport à l'ensemble des problématiques de santé publique, c'est finalement relativement peu.
C'est une vaste question, presque philosophique. Qu'est-ce qu'un usage problématique? Est-ce qu'un usage problématique de tabac, enfin, à quel moment on déclare qu'un usage problématique de tabac est un usage problématique?
Grosso modo, à partir de combien de cigarettes par jour?
Tout à fait. À partir de combien de verres d'alcool? À partir de combien de traces de coke ça devient problématique? C'est une question presque individuelle. Enfin, c'est une question individuelle, c'est à un moment donné se dire bah, « là, ça peut être problématique pour moi, pour mon environnement, pour ma famille, pour mon quotidien ». Et c'est là où peut-être je vais aller chercher de l'aide, du soin, et franchir la porte du Carud. Franchir la porte du Carud, c'est vraiment un acte de soin.
Alors, question de santé publique, même si elle est minime en quantité dans ce que ça représente comme argent pour la société. Mais question quand même importante, parce qu'il y a des addictions qui sont plus que tolérées, qui sont même encouragées. Quand on parle du tabac, de l'alcool, c'est pas vraiment encouragé, mais bon, très honnêtement, c'est pas interdit. Et puis, il y a des addictions qui sont plus illégales.
C'est toute une question de volonté publique, on va dire qu'il y a des addictions culturelles, enfin en tout cas il y a des consommations culturelles, comme vous pouvez dire le tabac et l'alcool, et des addictions qui deviennent culturelles, comme peuvent être la coke aujourd'hui.
Tout à fait, alors ça on va en parler, parce qu'effectivement ça a bien évolué, on en parlera si vous le voulez bien dans la deuxième
bien
partie,
sûr.
Parce que les choses ont bien bougé aussi depuis 70, depuis 2006, et aujourd'hui encore, et même je dirais que ça bouge pratiquement d'année en année tout ça.
Tout à fait, mais en effet la question des addictions est un sujet de santé publique par les dommages que ça peut créer, à la fois sociaux et à la fois de santé.
Donc c'est un centre, j'allais dire, socio-éducatif avec quand même une partie médicale. Dans le Carud, il y a des médecins, des infirmières, il y a pas que des éducateurs.
Aujourd'hui, donc au Carud Access, on a à la fois en effet des éducateurs et des éducatrices, des animateurs et des animatrices de prévention, des infirmiers et des infirmières et des médecins aussi. Donc on est une structure médico-sociale afin de balayer l'entièreté du champ des besoins des personnes qui peuvent avoir des besoins, enfin qui viennent nous rencontrer.
Alors le Carud, très honnêtement, c'est un lieu quand même, donc on va donner l'adresse tout de suite. Il y a un endroit où on peut se rendre, c'est pas un truc comme ça qu'on trouve sur internet et qu'on voit plus jamais.
C'est 66 avenue Charles Flao à Montpellier, c'est en face de l'hôpital de la Colombière.
Très bien, et donc justement j'allais vous parler de ça, c'est un lieu donc, où des gens viennent de différents endroits. On a l'impression quand même que c'est plutôt des gens en grande précarité qui viennent là, qui ont des maisons ou pas, un toit ou pas, qui sont plus ou moins perdus, plus ou moins atteints d'ailleurs par certaines pathologies. Et c'est vrai qu'il me semble que c'est ce genre de centre qui a posé problème certaines fois pour le voisinage, qui disait mais nous on n'a pas du tout envie d'avoir ça, il y a une école pas loin, il y a une maison de retraite pas loin, il y a nous qui habitons là. Est-ce que c'est un peu ces endroits-là qui sont malheureusement stigmatisés, pas forcément à tort d'ailleurs, mais qui peuvent poser problème dans un quartier?
Alors, ça, c'est pas tant... en fait, quand on installe un Carud, il y a tout...
J'ai mon franc-parler.
Allez-y, mais vous avez raison.
Parce que ça fait partie des questions qu'on peut se poser.
Tout à fait. Avoir comme voisin un Carud, ce n'est pas forcément quelque chose de facile. On va être totalement honnête, parce qu'il y a le bruit des chiens, ce qui font du bruit, les éventuelles problématiques de sécurité publique. Après, il y a également surtout la stigmatisation qu'on peut faire de nos publics qu'on accueille, et la peur et la crainte de l'insécurité, parce que il peut y avoir une réelle insécurité, mais il y a surtout la crainte de l'insécurité. Celle-ci est beaucoup plus prégnante, Au Carud Access, on a la chance d'avoir travaillé un environnement avec nos voisins. Même notre voisine nous offre des chocolats à Noël, pour tout vous dire, parce qu'on s'entend bien.
Mais c'est aussi une addiction, le chocolat.
Tout à fait, mais le sucre en est une. Mais du coup, on travaille vraiment en bonne entente avec nos voisins. On a même accueilli la jeune fille d'une de nos voisines en stage, pour tout vous dire. Donc c'est vraiment comment on travaille l'implantation du lieu et la médiation et la connaissance de nos publics qu'on accueille, pour que les personnes qui vivent à côté de nous en aient moins peur. Après, il y a toujours cette stigmatisation qui est un peu aussi accentuée par le climat politique actuel, d'avoir peur des usagers de drogue parce qu'ils peuvent être violents, parce qu'ils peuvent être tout ça.
Tout en sachant qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux. Est-ce que c'est une idée de reçue, le fait de dire que les gens qui utilisent la drogue sont de plus en plus, et les drogues, on verra lesquelles, sont de plus en plus nombreux?
Aujourd'hui, consommer des drogues est de plus en plus facile, en effet.
D'accord. Donc on peut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent être tentées, essayer et s'y accrocher.
Tout à fait.
À partir de quand vous recevez les gens donc au Carud? Donc c'est un lieu, on peut s'y rendre, on peut venir demander de l'aide. À partir de quand, à quel âge, on peut venir vous voir si...
Nous, on accueille uniquement des personnes majeures. Donc à partir de 18 ans, vous pouvez venir nous voir, jusqu'à 90, jusqu'à ce que vous ne pouvez plus vous rendre au Carud. Et même là, on pourra venir vous voir à votre domicile.
Et est-ce que la personne concernée doit venir en personne? Ou est-ce que, par exemple, des parents inquiets d'un garçon de 21 ou d'une fille de 21, 22, 23 ans peuvent venir vous voir en disant « il y a vraiment un souci ». Qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui ou pour elle?
On va pouvoir accueillir les personnes concernées. On accueille pas les parents, les familles, là on va pouvoir orienter vers d'autres structures.
D'accord.
Qui vont avoir des professionnels qui accueillent ces familles inquiètes.
Total anonymat.
Total anonymat.
C'est-à-dire que quand on vient chez vous, vous avez, je suppose, des renseignements d'état civil, mais c'est totalement protégé.
C'est même pas ça, c'est qu'on est sur un accueil inconditionnel. Donc si vous voulez vous appeler Jean-Claude, au lieu de vous appeler Robert, vous pouvez tout à fait nous le donner, ou même vous pouvez vous appeler Gasoil, ou j'en sais rien, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est en fait vous venez comme vous êtes et vous donnez l'identité que vous souhaitez.
D'accord. Et là vous allez avoir une sorte de suivi, un accompagnement, on va voir dans quelles conditions, mais c'est vous, un petit peu d'une certaine façon, qui fixez votre chemin.
C'est pas vous,
c'est la personne qui vient qui fixe son chemin.
C'est la personne qui vient qui va fixer ses objectifs, si elle en a. Encore une fois, des fois, les objectifs, ça peut être simplement de prendre un petit déjeuner, de se laver les mains. Ça ne va pas forcément parler de produits, ça peut être parler de gestes du quotidien qui sont difficiles à faire.
Parce que cet accueil-là, il existe, ce n'est pas simplement... on peut venir juste faire une pause, manger...
On peut venir tous les jours, de lundi au vendredi, sauf le jeudi. 9h à midi, sans réservation, on a juste à sonner au portail et on vient s'asseoir autour d'une table, prendre un petit déjeuner, fumer une cigarette si on fume et pouvoir prendre une douche, des machines à laver.
Ah oui, ça c'est important, pouvoir laver son linge quand on n'a pas d'eau dans l'endroit où on habite ou quand on n'habite pas un endroit justement.
Tout à fait. Avoir accès à un ou une infirmière pour des soins de première intention, puis peut-être travailler aussi des orientations sur des soins dentaires par exemple. Nous on va pouvoir travailler tout ça avec les personnes. On est vraiment une première porte vers de l'accès au droit à la santé.
On a brossé le tableau général.
On a à peu près brossé le tableau
voilà.
général.
Voilà, et on va revenir en deuxième partie, si vous voulez bien. On va revenir pour parler donc du Carud, qui est installé à Montpellier. Il y en a d'autres en France.
Tout à fait.
Mais c'est une expérience, effectivement, une expérience. C'est plus qu'une expérience. C'est pour ça que je suis entre l'institution et l'expérience, vous avez remarqué. Voilà. Je ne sais pas très bien comment l'appeler. Enfin, en tout cas, c'est un endroit où
c'est
on
un
peut...
Lieu de, c'est un voilà. lieu de vie. C'est une voilà. maison. Voilà. Nous, on appelle ça une maison.
Une maison où l'on peut accompagner des gens qui souffrent d'addiction. À tout de suite. Deuxième partie de ce 10-10, donc toujours avec Louis Letertre qui est chef de service au Carud. Donc on a défini ce que c'était que le Carud, c'est un lieu déjà, un lieu où on accueille des personnes qui sont j'allais dire victimes, en tout cas qui vivent des addictions. Mm-hmm. Je crois que ce sera plus dans le vocabulaire que vous aimeriez entendre. Donc, je parlais tout à l'heure de tout ce qui avait évolué, parce que dans les années 70, on commence à se préoccuper d'un certain nombre de choses, mais peut-être pas dans le bon sens, dans un sens répressif. 2006, les CARUD sont créés, enfin, sont sur le terrain, puisque la loi est un peu, tout petit peu plus ancienne, c'est l'application qui s'est faite en 2006. Et ça fait 20 ans, et en 20 ans, les choses ont beaucoup bougé. Peut-être les gens qui subissent des addictions ou qui sont victimes d'addictions, peut-être l'évolution de la consommation, l'évolution des produits qui compliquent les choses. Ça fait partie des choses dont vous devez tenir compte obligatoirement dans votre accueil.
Nous, on doit être hyper flexible et ajustable et au courant des produits qui circulent en effet sur le territoire et que les usagers consomment afin d'ajuster nos conseils de réduction des risques, nos accompagnements. Par exemple, pour donner un exemple, l'arrivée du crack a changé un peu nos accompagnements parce que c'est pas la même chose que d'avoir des usagers qui consomment des opiacés. Ça produit pas les mêmes effets.
Alors dites-nous rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas, l'héroïne, qu'est-ce qu'il y a comme grosse... la cocaïne...
Comme produit, vous voulez dire
le crack
en gros,
historiquement, si on fait chronologiquement.
L'héroïne, la cocaïne, le MDMA, les extasies, les champignons. Aujourd'hui, on va arriver sur des NPS, des nouveaux produits de synthèse, comme peuvent être les catinones, la 3MMC. On peut avoir également de la kétamine. Enfin, il y a beaucoup.
Est-ce que ce sont des choses qui se trouvent facilement et qui sont de moins en moins chères? Il y a l'accès aussi.
L'accès par Internet est facilité, en effet.
D'accord.
Donc, on trouve ça facilement si on a envie d'en trouver.
Et dans la rue ?
Et dans la rue également.
Aussi. Donc ça veut dire que ça fait vraiment partie d'un tableau que vous devez avoir en tête et dont vous devez de tenir compte.
Nous, on doit être dans les ajustements pour savoir d'où vient le produit et savoir comment on va accompagner l'usager face à ce produit.
Donc, vous avez au CARUD une antenne de traitement de substitution des opiacés, c'est-à-dire que vous allez donner quelque chose à certains qui le souhaitent, quand ils ne viennent pas juste prendre une douche ou se laver les mains ou prendre un petit-déj, vous allez leur donner, s'ils le souhaitent, effectivement, des traitements de substitution qui petit à petit vont pouvoir remplacer le produit, en tout cas seront moins nocifs.
Alors, donc, on va parler de méthadone et neuropuprine. Oui. Donc, c'est pour des personnes qui sont en consommation d'opiacés, donc ce qui peut être l'héroïne ou le skénon par exemple. Et on va pouvoir, s'ils le souhaitent, leur trouver un traitement de substitution, donc par la méthadone ou le robupré, comme ça peut être, c'est un peu la même chose que du Subutex, tout le monde a entendu parler du Subutex. Et en gros, les personnes viennent et peuvent avoir un traitement de remplacement, en effet, de leurs produits. Et après, on va les accompagner en fonction de là où ils souhaitent, c'est-à-dire soit sur remplacer en niveau de produit, comme vous l'avez dit, ou diminuer la consommation, ou totalement être sevré. Ça va dépendre de l'objectif de l'usager.
Mais est-ce qu'il n'est pas tentant, quand vous avez des gens qui ont ce souhait, de limiter leur consommation, en tout cas de remplacer des produits extrêmement nocifs par des produits qui le sont sans doute aussi, mais pas de la même façon, est-ce qu'il n'y a pas une tentation de les amener vers le sevrage, en lui disant, tu seras plus libre, tu vas pouvoir peut-être te réinsérer un petit peu, éventuellement faire une formation, trouver un travail, parce qu'il n'y a pas tout ce côté-là
Non, il n'y a pas de tentation de ça, parce que c'est vraiment, on accompagne l'usager, on est à côté de lui, on ne prend pas de décision à sa place. Pas de suggestion non plus, parce que les études prouvent que le sevrage, s'il est imposé, ne fonctionne pas, et même s'il est suggéré, il ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ça vienne d'une envie d'une personne, et puis il peut y avoir des arrêts de consommation pendant quelques mois, quelques années, une reprise, et on va venir réaccompagner. Et ça reste une victoire si ces personnes étaient dans ce souhait-là.
Alors, les drogues évoluent, j'ai même le sentiment que vous avez un laboratoire qui permet d'analyser la composition de ces drogues pour pouvoir effectivement trouver le meilleur substitutif.
Alors, c'est pas tout à fait ça. On a un spectromètre, c'est une petite machine qui tient dans une petite valise qui va venir analyser en effet les produits pour donner des compositions de ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que cette cocaïne, c'est vraiment de la cocaïne ou est-ce que c'est du sucre? Si, et est-ce que, par exemple, il peut y avoir des usagers qui viennent nous voir en nous disant « j'ai eu des effets délétères, des effets indésirables, des effets inhabituels ».
Non attendus, en tout cas.
Non attendus, et là, nous, on va venir analyser. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, par exemple, il y a eu l'arrivée des nitazènes. Les nitazènes, c'est un produit plus fort que l'héroïne, qui a fait des décès. Et c'est grâce à cette petite machine, on s'est rendu compte qu'en fait, qu'on ne trouvait pas ce que c'était. Et du coup, on a envoyé ce produit à Paris et ils nous ont dit, bah là, c'est l'arrivée des nitazènes. Et du coup, on a dû diffuser massivement de la naloxone. La naloxone, c'est un antidote aux opiacés qui vient sauver des vies. C'est-à-dire que
quelqu'un prend ce produit-là, qu'il fait une overdose,
c'est ça.
On lui donne quelque chose tout de suite.
Qui sauve des vies.
Oui, mais alors ça, qui lui donne?
C'est
vous.
C'est nous.
Mais il faut qu'il fasse une overdose chez vous.
Non, pas forcément, parce que du coup, on va former la personne.
Apprendre ce qu'il faut.
Apprendre ce qu'il faut et à former son entourage également.
D'accord.
C'est-à-dire, on va lui dire, bah voilà, tu prends cette seringue et tu formes tes compagnons, tes compagnes, pour que si jamais il t'arrive ça, bah, qu'ils puissent faire ce geste-là et te sauver ta vie.
Donc ça, c'est vraiment étonnant jusqu'à quel point vous allez. C'est-à-dire que vous anticipez la catastrophe et avec la personne concernée. Anticiper, c'était aussi, à un moment donné, ne pas partager les seringues. Donc il y a la possibilité d'avoir des seringues. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir le matériel qui permet de se shooter de façon, je dis le mot, hein, de façon parfaitement sécure.
En effet, on a un programme d'échange de seringues où on
pas
vient.
Pas entre les gens. Hein.
On vient donner du matériel adapté aux usages pour qu'ils puissent s'injecter et réduire les risques de contamination aux hépatites, d'abcès également.
Et est-ce que vous avez réussi à inclure là-dedans des professionnels de santé? Je pense par exemple aux pharmaciens. Enfin, est-ce qu'il y a une démarche, j'allais dire collective, autour de ce travail de prévention ou en tout cas d'accompagnement plus que de prévention?
On est en charge de l'animation du réseau de programme d'échange de seringues en pharmacie. Donc, c'est-à-dire qu'on vient distribuer aux pharmacies partenaires des kits plus et des petites boîtes avec 2 seringues et 2 coins s'injecter gratuitement aux pharmacies et en charge à eux, aux pharmacies, de le donner aux usagers qui leur en font de la demande.
Mais pas le produit avec.
Non,
je posais la question parce qu'effectivement, donner des bons produits, des produits, j'allais dire entre guillemets garantis, je ne veux pas dire bio, mais presque, ça serait peut-être pas mal non plus par rapport à tout ce qu'ils peuvent trouver sur le marché, des fois pas cher.
On n'est pas rendu là.
On n'en est pas là. Bon, mais ça pourrait ou pas?
Ça pourrait ou pas, on n'est pas rendu là.
C'est-à-dire faire finalement de l'injection de produits, s'il s'agit d'injection ou d'ingestion, je ne sais pas, quelque chose de totalement sécurisé comme on prendrait effectivement.
Après, pour l'instant, on n'en est pas là.
Donc vous avez aussi la possibilité de vous déplacer parce que la drogue, ce n'est pas simplement en ville et en cœur de ville, il y en a partout et même dans les campagnes.
Et même dans les campagnes.
Donc vous faites comment là? Vous partez avec votre petit camion
Tout à fait, on a un camion, on a un carune mobile où on va dans le pays cœur d'Hérault, donc Gignac, Lodève, Clermont-l'Hérault et on va à la rencontre d'usagers et d'usagers de drogue pour... En gros, leur donner l'ensemble des services du Carud dans une zone rurale où il y a peu d'accès aux services de soins.
Et donc, du coup, ce camion, il donne des rendez-vous aux gens, on vous appelle, vous allez à des endroits certains jours, à certaines heures?
On a repéré des lieux, on fait une maraude où il y a des lieux généralement de manche, où les usagers travaillent, et on va à leur rencontre.
Mais c'est vrai qu'on a du mal à penser que ça peut être d'autres gens que des gens qui sont à la rue. Quand vous en parlez vous-même, on parle de la manche, on parle de gens qui n'ont pas forcément de toit, qui ne peuvent pas forcément se laver les mains, laver leur linge. Donc évidemment qu'on a l'image de gens qui sont des gens à la rue. Mais ce n'est pas que ça.
Alors, ce n'est pas que ça le Carud, mais c'est majoritairement ça. C'est vraiment une structure qui a été pensée pour les usagers presque à la périphérie de l'humanité. Et je le dis avec... beaucoup de tendresse et aujourd'hui on accueille peu de personnes dites insérées. Il y a d'autres structures de soins qui peuvent les accueillir. Après, nous on accueille toute personne qui a envie de venir au Carud, évidemment. Mais on a une orientation un peu plus vers un public en grande précarité.
À la périphérie de l'humanité ou on pourrait dire à la périphérie de la société ou de notre société.
Tout à fait.
On se retrouve dans quelques instants, en deuxième pause musicale et c'est pas terminé parce qu'il y a aussi la prévention. Merci. Nous voilà pour cette troisième et dernière partie, donc avec Louis Le Tertre, qui, je le disais, est chef de service au Carude. Nous sommes dans le 10-10 de ce mercredi et nous avons parlé beaucoup d'addiction, puisque une des tâches du Carude, c'est d'accompagner des gens qui ont une addiction à certains produits, que ce soit, alors ça peut être le tabac, l'alcool, etc., ou des drogues, et parfois l'ensemble, puisque plus ça va, plus on a l'impression que l'alcool, le tabac et la drogue sont associés.
Aujourd'hui, on a en effet une population qui polyconsomme, c'est-à-dire qui consomme plusieurs produits en même temps.
Polyconsomme, c'est pas laid, mais enfin, ça représente quand même une réalité qui est difficile.
C'est une réalité qui est difficile, également dans une prise en charge qui peut être difficile.
Oui.
Voilà.
Je suppose que quand les gens viennent vous voir, ils le savent déjà, parce qu'ils ont souvent essayé de s'arrêter tout seuls.
Alors, ils n'ont pas forcément essayé de s'arrêter tout seuls, mais ils ont été ballottés de structure en structure. Ils ont déjà pu rencontrer d'autres Carudes avant nous aussi. Et c'est souvent des parcours de grande précarité avec des longs parcours d'errance également.
Thérapeutique, on va
dire. Également dans le soin.
Alors, il y a l'histoire de faire des prises en charge rapides, le dépistage.
Those who are wrong. It's important to question those who are absent, who those who live for democracy in general. It's urgent, it's an emergency to speak about those who are absent. It's an urgent to those who are absent. It's time to speak about those who are always wrong. It's an emergency to talk about freedom. It's important to question those who are absent. Those who live without democracy in general. Democracy, it's emergency in general. General, democracy is always raped. It's time to speak about those who are absent. It's time to speak about those who are wrong. It's important to question those who are absent. It's emergency, it's emergency. Those who live without democracy in general. It's urgent, it's urgent. It's an emergency. About those who are absent. Democracy in my eyes. It's emergency. It's emergency. With those who speak without who are absent. It's important to question those who are always absent. Who live without democracy in general. It's time to speak about those who are wrong. It's not always wrong. It's important to question those who are absent. Those who live without democracy in general. It's urgent. It's emergency. It's urgent to speak about those who are absent. To speak or talk about freedom. Freedom, freedom. Emergency, emergency. Time to speak about those who are absent. It's an emergency, 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 emergency.
Donc, il y a la nécessité par moment de faire des dépistages. Mmh. Alors, le dépistage, ça a bien évolué parce qu'à un moment donné, il fallait attendre des plombes, si je puis dire.
Tout à fait.
Les résultats. Ce qui pourrait être décourageant d'ailleurs, ce qui pouvait faire que les gens venaient au Carude, par exemple, attendaient je ne sais pas combien de temps, ne revenaient pas. Là, maintenant, c'est très rapide, ça peut être 30 minutes.
Ah, c'est même moins que ça, ça peut être tout simplement 2 minutes, c'est-à-dire oui. Avec une simple goutte de sang, comme un test de diabète, on D'accord. vient avoir un test d'orientation au diagnostic.
D'accord. Et quand on parle de dépistage, ça concerne essentiellement le VIH.
VIH, hépatite.
Hépatite, d'accord.
Tout à fait.
Et ça, c'est des tests que vous faites systématiquement dès que quelqu'un vient vous voir. Vous commencez par ça ?
Non, on ne commence pas par ça. C'est vraiment, on va proposer ce service-là à l'usager ou l'usagère. Et si cette personne le souhaite, on va le faire. Après, on va pouvoir lui dire, bah là, t'as pu prendre... on va pouvoir évaluer les risques que la personne avec elle a D'accord. pris et du coup lui proposer.
Et là, il y a des gens qui viennent que pour ça, par exemple ?
Il peut y avoir des gens qui viennent que pour ça, en effet.
Il y a la distribution de matériel, donc on en a dit un petit mot. Donc vous m'avez parlé tout à l'heure de kit.
Ouais.
Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce... C'est une petite boîte qui est offerte.
Tout à fait.
Et vous en offrez autant que nécessaire.
On va offrir autant de matériel que nécessaire aux usagers. On va offrir des seringues, des petites cuillères. On va offrir vraiment tout le matériel.
Alors, cuillères, il faut préciser pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas.
Des petites cuillères pour mettre
pas pour le café. Hein.
Non, pas pour mettre le café, mais pour simplement... fabriquer le produit qui vont pouvoir s'injecter D'accord. ensuite.
Et d'ailleurs, j'avais entendu parler de produits déjà tout faits, qui étaient beaucoup plus dangereux que les gens qui faisaient eux-mêmes leurs produits. Est-ce que vous avez entendu, je suppose, parler de ça, des choses qui arrivent, des prêtes à consommer, quoi, en fait.
Il y a toujours eu des prêtes à consommer, par exemple les ecstasies, la MDMA, ce genre. Enfin, il y a eu de la kétamine, il y a toujours eu des produits prêts à consommer. Tous les produits sont dangereux, ça dépend quel usage on en fait, comment on le connaît, comment on maîtrise les risques associés. C'est pour ça que nous, on parle de réduction des risques, c'est qu'on vient informer également sur la connaissance des produits et des usages et des effets que ça en a.
Donc là, vous avez quand même une écoute de gens qui s'y intéressent ou qui disent « bon, nous, on s'en fout, de toute façon, on s'injecte ça ».
Alors, généralement, ils s'y intéressent fortement parce qu'ils ne veulent pas mourir.
Oui, parce qu'il peut y avoir effectivement parmi les produits qui sont distribués actuellement, des produits qui vous tuent en quelques semaines.
Il peut y avoir des produits qui tuent en effet.
Est-ce que vous faites des interventions de prévention, je ne sais pas, auprès d'établissements scolaires, auprès de familles, auprès du grand public, parce que un des propres des parents, par exemple, c'est de ne pas s'apercevoir que son enfant consomme des produits, enfin ne pas s'apercevoir jusqu'à un certain stade, et parfois jusqu'à la mort, consomme des produits. Est-ce que vous faites des choses comme ça?
Nous, on ne fait pas ce genre d'intervention auprès du grand public. On va faire des interventions de formation auprès des publics, des professionnels qui accueillent nos publics dans des centres d'hébergement, dans des pensions de famille, par exemple, pour que nos usagers ou usagères qu'on accueille soient le mieux accueillis dans nos structures et qu'ils, les professionnels dont je parle, puissent accompagner au mieux les usagers qu'ils accueillent.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le reproche, entre guillemets, aux études de médecine, par exemple, de ne pas proposer une formation autour de ces produits-là, des conséquences, puisque c'est, on a bien vu qu'il y avait un risque psychosocial. Et je ne suis pas sûre que dans les études de médecine, il y a plein comme ça de coins noirs dans lesquels on ne va pas trop.
Il y a dans les études de médecine un volet sur notamment les traitements de substitution aux opiacés. Donc il y a ce volet-là. Après, charge au médecin à un moment donné de, s'il le souhaite, se renseigner un peu plus. Et nous, on peut accompagner les médecins, s'ils le souhaitent, vers une meilleure connaissance.
Est-ce qu'une partie des objectifs du CARUD a été atteinte?
Oui.
Parce qu'il y avait quand même au départ, il y a une volonté d'assainir, si je puis dire, sans forcément interdire, mais d'assainir, en tout cas de mettre les gens peut-être devant leurs responsabilités, de leur proposer un accompagnement, de leur...
Je ne définirais pas ça comme ça, mais je dirais plutôt qu'on est ouvert, on fonctionne, on accueille beaucoup de personnes, on accompagne, et c'est là où on réussit, on remplit nos missions, on a réduit drastiquement le VIH, on a réduit drastiquement les hépatites. Et c'est là où était notre mission de santé publique et on va continuer à éviter des décès liés à un mauvais usage des produits psychoactifs.
Vous avez des exemples comme ça de gens qui sont venus vous voir dans un sale état et qui ont fait ce chemin, leur propre chemin, comme ils l'ont décidé à leur rythme et qui, d'une certaine façon, vont mieux sans pour autant consommer plus?
Oui, il y en a plusieurs que j'ai en tête qui ont eu des parcours de vie chaotiques, qui avec, encore une fois, franchir la porte du CARUD est un acte de soin.
Et déjà.
Déjà, parce que ça demande beaucoup de courage, finalement. Et il y a des usagers qui vont aujourd'hui, qui ont un travail, qui sont rentrés et qui le souhaitaient, et qui ont un hébergement, une famille. Récemment, on a eu une naissance.
Voilà, de la part d'un de vos usagers.
De la part d'un couple d'usagers.
Qui ont été papa et maman.
Tout à fait. Et on a accompagné la grossesse. Aujourd'hui, ils sont dans un hébergement et on continue de les accompagner.
Ça, je trouve que c'est une belle histoire. Enfin bon, ça doit être relativement rare, mais je pense que c'est une belle histoire. D'autant plus que cet enfant naît avec des chances supplémentaires en ce sens que ses parents savent. l'enfer que c'est et combien c'est difficile, effectivement, quand on décide de faire quelque chose et d'arrêter, combien c'est difficile de le faire.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Louis Le Tertre. On va rappeler quand même l'adresse, si vous le voulez bien. C'est 66 avenue Charles Flao, à Montpellier. Ça s'appelle le Carud.
Access.
Et si vous avez plus de 18 ans, qui que vous soyez, dans un anonymat absolu, que vous soyez à la rue ou pas, vous pouvez aller vous renseigner auprès du Carud et être accompagné dans vos souhaits, qui ne sont pas forcément des souhaits d'arrêter, mais peut-être des souhaits de contrôler, de gérer mieux une consommation qui devient pesante pour vous. Merci beaucoup, Louis.
Merci, Maria.
Merci, à la prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.